Voici la traduction d'une conférence sur la guérison divine donnée par Curry Blake, responsable du ministère de John J. Lake aux États-Unis. Session 5 sur 19. Dans la dernière session, nous avons jeté un regard sur la nouvelle alliance en comparaison à l'ancienne alliance. Et je crois que vous êtes allé étudier davantage sur ce sujet. Et la manière la plus rapide de bien comprendre ce concept est de le lire directement dans la Bible. Alors, je vous encourage de lire l'Épître aux Galates au complet. Et ce n'est pas très long de toute façon. Il s'agit de le lire et de prendre bien le temps d'analyser chaque verset et de bien comprendre chaque verset. Vous pouvez aussi lire l'Épître aux Hébreux parce que tout cet Épître, en fait d'Hébreux et de Galates, ont été rédigés pour corriger les problèmes dont je fais mention actuellement. Parce que les chrétiens de la Nouvelle Alliance essayaient sans cesse de retourner à la loi et de retourner à cette ancienne alliance et la manière qu'on faisait les choses à cette époque-là, dans l'ancienne alliance. Alors, je ne vous connais pas ici, ceux qui sont devant moi, mais je ne crois pas que personne aimerait offrir actuellement un animal en sacrifice à Dieu pour pardonner vos péchés. Mais c'est un peu, en quelque sorte, ce qu'on fait aujourd'hui. Lorsqu'on retourne à la mentalité de l'ancienne alliance et que nous essayons de vivre selon les lois de l'ancienne alliance, alors nous en gardons une partie et nous rejetons l'autre. Et la Bible dit que si vous violez une seule loi de l'ancienne alliance, vous êtes coupable de comme si vous les aviez toutes violées. Alors la seule manière que vous soyez libéré de cela, c'est de bien comprendre que Jésus a tout accompli pour vous. Et maintenant, votre tâche, en tant que chrétien, est tout simplement d'accomplir deux lois que je vais vous citer à l'instant. Un homme est venu à Jésus une fois et lui a demandé quel était le plus grand commandement. Jésus lui a répondu et lui a dit que le plus grand commandement, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors c'est ce que le jeune homme lui demandait. Quel était le plus grand des commandements? Jésus lui a répondu, mais il a ajouté quelque chose. Il a dit, voici, c'était le plus grand commandement, mais le second est comme le premier, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors, selon ces deux commandements, toute la loi et les prophètes sont accomplis. Jésus a dit au jeune homme, si tu fais ces deux choses, c'est comme si tu accomplissais toute la loi. Et pour expliquer encore mieux qu'est-ce qu'il voulait dire, et il lui a dit, ben voici comment aimer tes voisins. Tu vas vers eux et tu leur fais ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Si tu fais cela, on appelle ça la loi d'or, la règle d'or. On a tellement enseigné la Bible à la manière humaine et nous y avons ajouté nos idées humaines et ce n'est pas ce qu'on doit faire. Alors l'homme croyait que ce que Jésus parlait était tout simplement d'être gentil envers les gens. Et oui, bien sûr, on doit être gentil envers tout le monde. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait dire là. Si c'était ça, alors si quelqu'un est malade, alors notre seule responsabilité serait de lui donner peut-être un bol de soupe. C'est tout. Mais le Seigneur nous demande aussi de guérir les malades et d'agir comme Jésus. Alors ça vient d'un esprit renouvelé. Ce que nous avons dit hier. Alors Jésus a donné une illustration à ce qu'il voulait dire. Vous vous souvenez, lorsque Jésus a dit à ses disciples qu'il irait à Jérusalem et être crucifié? Et Pierre a répondu, « Oh non, Seigneur, ça n'arrivera pas, c'est sûr. Je ne vais pas permettre que ça se produise. » Vous vous souvenez ce que Jésus a répondu? Il n'a pas dit, « Merci Pierre, je suis content que tu m'aimes autant. » Non, il s'est tourné vers lui et il a dit, arrière de moi, Satan. Pourtant, Pierre n'était pas un démon. Et le mot Satan veut dire un adversaire. Et il n'était pas possédé d'un démon non plus. Alors, ce que Jésus a rajouté explique cette situation. Il a dit, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont celles des hommes. Alors, Jésus compare la pensée humaine avec la pensée du diable, comme un adversaire contre Dieu. Alors on doit changer notre entendement afin que nous ne pensons plus comme des humains, mais que nous devons avoir la pensée de Christ. Et lorsque vous avez la pensée de Christ, vous commencez à dire les paroles que Christ parle. Et vous allez penser comme Dieu pense. Et c'est très bien. C'est très bien de penser comme Dieu. Et lorsque vous verrez des gens malades, vous n'avez pas juste un peu de pitié, là. Oh, pauvre toi, t'es malade. Tu penses comme Dieu pense. Et là, la compassion de Dieu vient dans ton cœur. La différence entre la compassion et la pitié, c'est ceci. La pitié va dire, oh, pauvre toi. Mais la compassion va dire, oui, pauvre toi, mais laisse-moi t'aider. Voilà la différence. La pitié ne pense pas comment aider. Il a juste un sentiment de regret, quoi. Mais la compassion vous amène à l'action et d'aider la personne. Alors, vous devez réaliser que c'est bien de penser comme dit la parole de Dieu, de penser comme Christ pense, ce qui va vous amener à la pensée de Dieu et à sa parole, ce qui est la partie la plus difficile de la vie chrétienne, parce que nous sommes entourés par toutes sortes de gens et toutes sortes de publicités qui essaient de nous amener à penser comme les humains. Mais vous n'êtes jamais appelé à penser comme les humains. Dieu vous appelle à penser avec la pensée de Christ. Et la Bible nous dit d'avoir la pensée de Christ et d'amener à la réalisation la parole de Dieu sur cette terre. On nous dit de marcher comme des fils et des filles de Dieu. Parce que c'est vraiment qui nous sommes. Dans le chapitre 1 de Jean, verset 12, il nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » Et c'est Jean qui nous l'a dit. Et ce même apôtre a écrit plus tard, dans sa première épître au chapitre 3, et le mot qu'il a utilisé, vous pouvez entendre le cri de son cœur à travers ses paroles, pour nous amener à saisir. Et il a dit, « Bien-aimés, voici de quelle manière Dieu nous a aimés, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. » C'était tellement profond, tellement glorieux. En fait, c'est un miracle, un mystère, qu'il puisse écrire ces choses. Parce que ce genre d'affirmation est exactement le pourquoi on a crucifié Jésus. C'est pourquoi on l'a amené à la mort. C'est pourquoi les leaders juifs le haïssaient. Parce que juste avant, les leaders religieux voulaient le lapider. Et il leur a demandé, « Pour quelle bonne œuvre vous voulez me crucifier? » Et ils lui ont répondu, « C'est parce que tu t'appelles un fils de Dieu, c'est pour ça qu'on veut te tuer. » Et plus tard, ce même apôtre a écrit dans sa lettre, pour que tous puissent le lire, regardez de quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Il a dit, maintenant, nous sommes les enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque Jésus va revenir, nous serons exactement comme lui. C'est ce que Jean disait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient tout le fait d'être appelé un fils. Cela va se produire lorsqu'on sera au ciel, quelque part là, dans les nuages. Tout sera merveilleux à ce moment-là. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, que nous n'avons pas à attendre d'être au ciel. Maintenant, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Maintenant, nous sommes ceux et celles qui amenons l'Esprit Saint sur cette terre. C'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et qui a fait tous ces miracles, qui a créé l'univers. Ce même esprit est en nous. Et ce qui nous empêche de le voir et de le constater dans notre vie, c'est que notre pensée n'est pas renouvelée. Qu'est-ce que tu veux dire là, vous me dites peut-être? J'ai mémorisé des versets dans le passé. Mon père et ma mère sont toujours vivants aujourd'hui. Et ils ont un perroquet à la maison qui est capable de citer des versets de la Bible. Ma mère a appris au perroquet de chanter Jésus m'aime. Et elle va placer ce perroquet devant la télévision. Et s'il y a un film de la jungle, le perroquet va entendre les oiseaux dans la télévision. Et lorsque les oiseaux commencent à chanter, Ce perroquet va leur répondre. Et si j'entre dans la pièce et que je m'approche de ma mère, ce perroquet va me dire que c'est ma mère. Il va me dire que c'est sa mère. Il est jaloux. Il n'aime pas quand je m'approche de ma mère. Il essaie même de me mordre. Et je lui ai dit, il est mieux de mourir avant qu'eux meurent, parce que si je m'occupe de lui, cet oiseau-là va finir dans mon four. Un perroquet rôti. La raison que je vous dis ça, c'est que je veux que vous compreniez, un perroquet peut même mémoriser la Bible et même le citer, et peut-être même le citer mieux que moi, parce que ces perroquets ne font pas d'erreur. Alors, ce n'est pas juste de mémoriser la Bible. Cela ne veut pas dire que votre pensée est renouvelée. Laissez-moi vous dire une petite histoire. J'étais dans le sud des États-Unis, dans le Mississippi, envers la Floride, avec mon épouse, dans notre auto, et je suis arrêté pour prendre un motel. Alors, lorsque je voyage, je loue des motels qui sont peu dispendieux. Je ne veux pas dépenser beaucoup de sous sur les motels. Et c'est pourquoi ma femme ne voyage pas toujours avec moi. Mais là, elle était là avec moi cette soirée-là. Alors, je suis allé dans ce motel très peu coûteux et je voulais savoir la météo. Alors, j'ouvre la télévision, je retourne à mon auto pour amener mes livres dans la chambre. Alors, j'entre les livres dans ma chambre et ce motel est tellement cheap que ça a pris un certain temps avant que la télévision réchauffe pour fonctionner. Mais quand j'ai passé près de la télévision, alors elle a finalement fonctionné, s'est mise à fonctionner. Et vous ne savez jamais ce qu'il va y avoir à l'écran. Alors j'ai placé mes livres sur la table et je marche devant la télévision. Et tout à coup, il y avait une femme à la télévision, dans une cour de justice, qui donnait un témoignage. Et tout à coup, elle commence à pleurer, 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 trembler. Et alors que je marchais devant cet écran, je l'ai vu pleurer. Et avant que je pense quoi que ce soit, j'ai placé ma main vers elle et j'ai demandé à Dieu de la bénir. Et j'ai réalisé tout à coup que c'était un film. Alors évidemment, j'ai enlevé ma main, j'ai regardé un peu partout parce que je ne voulais pas que mon épouse m'ait vu. Et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, n'aie pas honte, mon fils. Cela démontre que ta pensée est renouvelée. Avant même que tu penses, que tu réfléchisses, tu as étendu ta main pour prier pour elle, parce que ta pensée est renouvelée. Et tu penses à aider l'autre continuellement et de les bénir, avant même de réfléchir. Alors comment pouvez-vous comprendre si votre pensée est renouvelée ou pas? Votre pensée est renouvelée, non pas lorsque vous pensez ce que la Bible dit. Votre pensée est renouvelée lorsque vous pensez comme la Bible. Vous comprenez la différence? Lorsque vous pensez comme la Bible, non pas ce que vous pensez à la Bible, alors vous dites comment faire? Et ça, c'est tout le combat de la vie chrétienne, d'être renouvelé dans notre intelligence, afin que nous n'avons plus à lutter entre la pensée et l'esprit. Alors c'est là que les deux doivent s'aligner. Alors vous dites comment faire? Alors vous le faites actuellement. Lorsque nous aurons terminé, votre pensée aura été renouvelée concernant la guérison et la puissance de Dieu et la volonté de Dieu vers les gens. Mais pour faire cela, vous devez entendre la parole de Dieu, que ça vous soit enseigné ou que vous le lisiez vous-même. La parole doit être comprise et amenée dans son contexte. Vous ne pouvez pas seulement prendre un verset à la pige. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devriez toujours lire au moins 7 à 8 versets pour retrouver le contexte. Par exemple, nous connaissons tous le verset qui dit, Romains 8, 14, qui dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si nous enlevions ce verset hors de contexte, et nous croyons que cela voudrait dire qu'on doit être dirigé, conduit pour faire toute chose, et qu'on ne peut rien faire sans qu'on ressente le Saint-Esprit nous conduire. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Lorsque vous lisez tout le chapitre, tout Romains 8 n'a rien à voir en étant conduit par l'Esprit pour aller guérir les malades, ou conduit par l'Esprit pour aller témoigner. Tout le chapitre se réfère à une seule chose, c'est de faire mourir les œuvres de la chair. Et c'est tout ce que ce chapitre nous enseigne. Il nous enseigne que si nous vivons par l'esprit, les œuvres de la chair vont tout simplement diminuer, vont s'évanouir. Et voilà comment nous savons que nous sommes nés de Dieu. Parce que la chair ne va jamais nous conduire à tuer la chair. Lorsque vous tuez la chair, alors vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Et vous êtes toujours dirigé par le Saint-Esprit ou par la chair. Mais vous avez à décider qu'est-ce que vous allez choisir. Savez-vous que Dieu ne nous a jamais commandé d'être conduit par l'Esprit? Ce n'est pas un commandement. Pourtant, Dieu vous demande de marcher dans l'Esprit. Alors, comment marcher dans l'Esprit? Alors, vous détruisez les œuvres de la chair, vous obéissez à la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous marchez dans l'Esprit. Et lorsque vous marchez dans l'Esprit, vous savez que c'est l'Esprit qui vous conduit. Alors, rappelez-vous, ce n'est pas un commandement d'être dirigé par l'Esprit. Pourtant, on vous commande d'être rempli de l'Esprit. Et dans Éphésiens, on vous dit comment être rempli du Saint-Esprit. Alors, il nous le dit d'une manière spécifique, « Soyez remplis de l'Esprit. » C'est en se parlant soi-même, avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Alors que vous faites cela, c'est comme une génératrice qui génère l'action de l'Esprit-Saint. Parce que la Bible dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer, d'une manière excessivement abondante, et au-delà même de tout ce qu'on peut penser ou espérer. Et nous disons tous « Amen » et nous sommes d'accord, mais ce n'est pas la fin de ce verset. Il dit que Dieu peut faire ces grandes choses à travers nous, en accord avec la puissance qui travaille en nous, qui œuvre en nous. Et la manière que cette puissance agit en nous, c'est ce que Paul a dit à Timothée, de raviver le don de l'Esprit qui est en lui. Alors, comment faire pour raviver l'Esprit? En se parlant soi-même, en s'imprégnant de la parole de Dieu. J'aimerais vous demander une question. Pourquoi croyez-vous que nous prions toujours pour vous après la prédication? Parce que si nous prêchons pendant une heure, nous espérons que la foi va grandir dans votre vie. Mais la raison numéro un, c'est qu'alors que nous prêchons la parole, nous récoltons aussi la foi dans ce que nous prêchons. Alors, par la suite, nous pouvons prier pour les gens et avoir beaucoup plus de foi, et Dieu peut faire des choses extraordinaires. Nous ne sommes pas obligés de prêcher, premièrement, mais c'est une bonne manière de faire, parce que là, nous allons dans la parole de Dieu, et notre foi est nourrie. Nous pouvons, si on veut aussi, prier pour les malades en premier, et voir des guérisons. Mais si nous prenons l'habitude de prier pour les malades avant la prédication, et en fait, oui, effectivement, il y aura des guérisons, alors le risque est que ces personnes ne pourront jamais entendre la prédication de la parole. Donc, c'est pour ça aussi, souvent, que nous allons prêcher en premier et puis prier par la suite afin que les gens soient guéris. Alors, nous parlions de l'Ancienne Alliance et nous l'avons comparée à la Nouvelle Alliance. Et j'aimerais vous parler d'une raison, une autre raison, pour laquelle Dieu nous a donné une nouvelle alliance. Alors, il faut se souvenir que l'ancienne alliance n'était pas parfaite, dans le sens qu'elle ne pouvait pas rencontrer complètement les besoins humains. Alors, c'est la raison, en fait, pour laquelle Dieu a amené aussi une nouvelle alliance. Lorsque le temps était accompli, Dieu a amené la nouvelle alliance. Et nous savons que la nature de Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais, si vous regardez l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, comme nous disons l'Ancien et le Nouveau Testament dans la Bible, beaucoup de gens ont un problème avec le Dieu de l'Ancien Testament. Et ils disent, non, c'est pas le même Dieu que celui du Nouveau Testament. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament était sévère et qui faisait toujours des jugements, des commandements, commander de tuer des gens, et cela ne peut pas être le même Dieu que le Nouveau Testament. Mais la différence est celle-ci. Dans cette ancienne alliance, à cause de la nature humaine déchue, Dieu devait juger les humains sur la base de leurs péchés. Jésus n'était pas encore venu. Et c'est pourquoi les prophètes disaient, il vient, parce qu'ils savaient que lorsque Jésus viendrait, les choses seraient différentes. Même le langage de l'Ancien Testament démontre cette différence. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts, seulement couverts. Alors Dieu a établi une religion dans l'Ancienne Alliance qui n'enlevait pas le péché, mais les péchés étaient cachés, couverts, de sa vue, par le sang des agneaux et des bœufs, jusqu'à l'année suivante. Et à chaque année, le grand prêtre devait refaire le rituel, ce qui démontrait que le sang des animaux ne pouvait pas enlever les péchés pour toujours. Et si vous lisez l'Épître aux Hébreux, ce thème est discuté très très bien. Parce que Jésus, lorsqu'il a offert son propre sang à la croix, il l'a fait une seule fois. Parce que son sang est meilleur que le sang des animaux et des moutons. Son sang ne fait pas que couvrir le péché, amène complètement la rémission des péchés. Il l'enlève, il retire, il chasse les péchés. Ils ne sont plus cachés ni couverts, mais complètement abolis. Vos péchés ont été lavés complètement. Et vous êtes lavés complètement parce que vous êtes en Jésus-Christ. Et vous avez accepté la valeur de son sang. Et lorsque vous voulez retourner vers l'Ancienne Alliance et faire les choses de la manière où elles étaient faites à cette époque, ce que vous dites en réalité, c'est que vous percevez le sang de Jésus qui n'est pas mieux que le sang des animaux, des moutons et des bœufs. Paul a parlé aux Hébreux et il leur a dit qu'ils foulaient le sang de Jésus sous leurs pieds. Et c'est ce à quoi il faisait allusion lorsqu'il disait que si vous retournez sous la loi, vous piétinez le sang de Jésus et après cela, il n'a plus de pardon. Parce que maintenant, vous avez considéré le pardon de Dieu et vous avez décidé que tout ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire pour enlever vos péchés n'est pas suffisant pour vous. Et que vous devez terminer cette œuvre-là dans vos propres forces. Et vous devez continuer de suivre des lois. Voilà ce que Paul enseignait. Et c'est pourquoi Paul était totalement contre cette pensée. Il disait que Jésus est la fin de la loi pour tous ceux qui ont la foi en lui. Alors c'est de cette manière qu'on guérit les malades. Vous comprenez que vous êtes en Jésus-Christ. Et ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Et lorsque vous saisissez cette vérité, vous saisissez qu'en vous tenant devant Dieu, vous représentez Jésus pour ces gens-là. Et lorsque vous sortez de votre chambre de prière et vous allez vers les gens, vous savez que vous représentez Jésus pour ces gens-là. Et c'est pourquoi ce que je vous dis ce soir ne sont pas des mots que j'ai inventés, des théories d'un homme qui vient comme ça se faufiler et cela n'aura aucun effet. Essayer de gagner la faveur de Dieu est en vain, mais je viens ici pour représenter Dieu et je parle ce que lui dit. Et certainement, si je fais bien ma tâche, j'accomplis bien ma tâche, vous ne me verrez pas moi, mais vous entendrez la voix de Dieu à travers moi, et vous recevrez sa parole. Et vous comprendrez alors pourquoi Dieu nous a dit d'aller à lui avec assurance, d'aller avec assurance devant le trône de la grâce, afin que nous puissions recevoir l'aide de Dieu dans les temps où nous en avons besoin. Jésus a dit, si vous recevez celui que j'envoie, vous me recevez moi-même. Alors lorsque je me tiens devant vous, je ne me tiens pas dans ma propre autorité, ni dans ma propre sainteté, ou combien de jours j'ai jeûné ou prié. Je me tiens devant vous à cause de la bonté et la fidélité de Jésus-Christ. Et je parle selon ce que lui dit. Et si je dis sa parole sont des paroles de vie. Jésus a envoyé sa parole et il l'a guérie, dit le psaume. Sa parole est santé et vie pour tout notre corps. Alors je ne parle pas de mon propre chef. Si j'étais venu ici pour me représenter moi, ou de représenter John Lake, Alors je serai là devant vous, en train de trembler et dans la faiblesse, parce que je n'aurai rien à vous dire, parce que je sais que Curry Blake, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun espoir dans mon nom. Mais je ne viens pas ici en mon nom. Je viens ici au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, toute chose qui a un nom doit se prosterner devant le nom sacré de Jésus-Christ. Vous ne regardez pas ici un homme. Vous entendez la voix de Dieu. Et la beauté de ce message, qui est l'Évangile, c'est le fait que vous, que si vous pouvez oublier qui vous êtes aussi, si vous pouvez oublier votre passé et commencer à agir et à parler basé sur ce que Jésus a dit, si vous pouvez commencer à parler ce qu'il a dit et placer ses paroles dans votre bouche, vous aurez la même autorité que sa parole a dans ma propre bouche et que sa parole a eu dans la bouche du Seigneur lui-même. C'est le secret de l'Évangile. Vous pouvez citer les paroles de Bouddha. Mais elles sont mortes, les morts ne ressusciteront pas. Mohammed et les résurrections n'auront pas lieu. Vous pouvez citer les mots des prêtres hindous et les aveugles ne verront pas. Et vous n'avez pas besoin de connaître toutes les Écritures. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque chapitre et chaque verset. Mais si vous connaissez celui qui a écrit ces paroles et que vous parlez en son nom, vous n'avez même pas besoin de prêcher. Vous pouvez seulement dire au nom de Jésus et placer vos mains sur les malades. Et la vie de Christ passera dans votre vie. Et les malades seront guéris. Et les morts ressusciteront. Les aveugles reverront. Parce que le ciel et l'enfer reconnaissent la valeur et la puissance du nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Comme je vous l'ai lu hier soir dans l'Acte chapitre 3. L'apôtre Pierre n'a pas prêché jusqu'à ce qu'il ait guéri le malade, le boiteux. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne, et au nom de Jésus-Christ. Et il a dit, en ce nom-là, marche, lève-toi et marche. Il l'a pris par la main, et le boiteux était guéri. Il n'a pas prêché un sermon, il a guéri le malade. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Vous ne voyez jamais Jésus, seulement enseigner les gens. De comment leur enseigner comment être guéri. Il les guérissait. C'est la différence entre l'Église d'aujourd'hui et Jésus. L'Église d'aujourd'hui, nous sommes là, nous ouvrons la Bible et nous prouvons que la guérison est de Dieu en utilisant les Écritures. Nous prouvons que les guérisons sont pour aujourd'hui en utilisant la parole de Dieu. Jésus n'a pas fait cela. Alors nous amenons les choses à l'inverse. Jésus a prouvé la parole de Dieu en guérissant les malades. Il a dit, si vous ne croyez pas les choses que j'ai dit, croyez au moins à cause des œuvres, parce que les œuvres que je fais sont justement pour confirmer ce que je dis. Et nous essayons d'utiliser les paroles pour simplement valider les œuvres. Et c'est pour cela que nous ne voyons pas beaucoup de puissance. C'est parce que nous tournons le message à l'envers. Réalisez-vous que Jésus ne s'est jamais excusé, il n'a jamais eu de regrets, il n'a jamais essayé que tous les gens comprennent bien ce qu'il faisait. Il faisait tout simplement qu'il savait ce qu'il devait faire. Peu importe si les gens devenaient fâchés, parce qu'il guérissait les malades le jour du sabbat. Il ne s'est jamais excusé pour cela. Il a dit que l'homme n'était pas fait pour le sabbat, mais que c'est le sabbat qui était fait pour l'homme. Alors les religieux étaient fâchés de lui. Il ne s'est jamais excusé et il n'a pas essayé de convaincre personne. C'était très clair, son message était très clair. Les gens étaient tellement étroits d'esprit, mais Jésus ne s'est pas excusé. Il a dit, voici, c'est la manière de faire. Il n'a pas dit, choisissez quel chemin vous voulez prendre. Il n'a pas dit, vous devriez faire ceci ou cela, prendre tel chemin ou l'autre. Il a dit, les mots que je vous dis sont de la vie. Je suis celui qui est, si ne vous repentez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Il n'y a aucune autre avenue vers le Père. Je suis le chemin. Vous faites le choix. Vous mourrez ou vous vivez. Mais si vous n'êtes pas à moi, vous allez mourir. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On essaie de rendre les choses faciles, que les gens entrent facilement dans le royaume. On a peur de dire la vérité. Parce que lorsqu'on dit la vérité, il y a des gens qui seront choqués contre nous. Mais j'aimerais vous dire, oui, dites la vérité. Et les gens qui aiment Dieu vont venir vers vous et ils vont servir Dieu. Et ceux qui ne veulent pas vont carrément s'éloigner parce qu'ils ne veulent pas entendre Dieu. Alors nous devons tracer une ligne et être très clairs. Sinon, si nous ne sommes pas clairs avec la vérité, cela donne une fausse espérance aux gens. Jésus a dit, beaucoup vont essayer d'entrer dans le royaume, mais seulement quelques-uns pourront venir. Vous ne pouvez pas rendre le chemin facile. Vous ne pouvez pas relargir le chemin du royaume. Ce chemin étroit, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, toute votre pensée et votre esprit, et d'aimer votre prochain comme vous-même. Cela veut dire faites-leur ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Amen. Voilà, nous allons prendre une pause.